Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodesavoirs.fr.
Activez vos synapses. Synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Quelques lignes de code en vert sur un écran noir et paf, on a hacké le système. Aussi simple que d'écrire un tweet. En tout cas, dans la fiction, la réalité semble bien plus fertile car pirater un système, cela peut aussi ressembler à la prise de contrôle de robots, de capteurs ou d'autres machines industrielles. Jumeaux numériques, pot de miel et cybersécurité des systèmes physiques complexes, cette émission du Labo des Savoirs va tout vous expliquer. Avec nous en plateau pour parler de cybersécurité et de recherche scientifique sur ce sujet, nous recevons deux invités, Jérémy.
Oui Sophie, autour de la table, deux doctorants dont les travaux vont nous éclairer aujourd'hui. Vous menez vos recherches à l'Institut Mines Télécom, IMT Atlantique, au sein de la chaire Cyber-CNI. Mathis Durand, bonjour.
Bonjour.
Votre thèse porte sur la conception de pots de miel les plus alléchants possibles. Hugo Bureau, bonjour.
Bonjour.
Votre thèse traite des utilisations de jumeaux numériques pour l'analyse cybersécurité. J'ajoute que vos travaux sont menés en collaboration avec la chaire de recherche en cyberdéfense de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi.
Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
Alors quel est le point commun entre Boulanger, Free, l'hôpital d'Armentières ou Libération ? Il s'agit d'une liste de victimes récentes de cyberattaques. Ce phénomène est loin d'être anecdotique. Action contre la cybermalveillance, le groupement monté par l'État pour l'assistance et la prévention en cybersécurité recensait 2782 attaques avec rançon en 2023. Alors dans ces situations, les pirates menacent de rendre des données publiques ou de bloquer l'accès à des machines, demandent des sommes importantes pour ne pas mettre leurs menaces à exécution. Ces attaques prennent aussi des formes étonnantes. Petit voyage dans le temps, le collectif Anonymous a lancé en mars 2023 une opération en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À ce moment-là, plusieurs dizaines d'imprimantes ont été piratées. Elles ont imprimé de manière frénétique des messages de contre-propagande à destination de la population russe.
Donc les exemples ne manquent pas. Avant de creuser vos sujets de recherche, prenons le temps de comprendre le contexte autour de ces événements. Alors peut-on essayer de définir un peu ce que c'est qu'une cyberattaque ? Peut-être Mathis Durand pour commencer ?
Si on peut définir ça, une cyberattaque, ce serait quand un attaquant ou un groupe d'attaquants va chercher à obtenir quelque chose d'un système d'information de manière plus ou moins licite. Donc souvent, on a en partie des moyens illicites, mais des fois, on peut avoir des choses qui sont totalement licites et qui rendent parfois les attaques assez complexes. Le but de l'attaquant, ça va reposer sur plusieurs principes, mais on peut imaginer que le premier motif d'attaque va être la récupération d'argent, tout simplement. Mais on peut aussi avoir des actions qui soient politiques ou qui soient en réponse à des phénomènes. On en parlait tout à l'heure notamment avec la guerre en Ukraine. Et donc l'objectif de ces attaquants, la plupart du temps, ça va être de s'introduire dans un système dans lequel ils ne sont pas censés s'introduire. Et pour ça, simplement, il va utiliser soit des failles de sécurité qui existent, mais ça peut être aussi des failles humaines qui font aussi partie de la cybersécurité.
Et est-ce qu'une cyberattaque se fait forcément via un ordinateur ?
Alors, une cyberattaque, ça peut être via tous les moyens qu'on a, c'est juste que ça va utiliser l'outil informatique. Donc, la cyberattaque, elle peut être lancée effectivement par un ordinateur, mais elle peut être lancée par n'importe quel outil, comme on peut pirater n'importe quel outil. Vous avez cité juste avant les imprimantes, par exemple. Et bien en fait, il y a des attaquants qui vont constituer en fait, des réseaux de machines zombies, qu'on appelle ça. Et leur but, eux, ça va être de rassembler un nombre de machines qui ne sont pas forcément des ordinateurs. Mais ça peut être aussi bête qu'une brosse à dents connectée, qu'une imprimante, qu'un frigo, des objets plus traditionnels, d'autres moins. Et leur but à eux, ça va être d'avoir un ensemble de machines pour augmenter leur puissance, par exemple, lors d'une attaque. Mais du coup, ce qu'ils peuvent utiliser, c'est l'ordinateur, c'est tout ce qu'on a en tête, et parce que souvent, quand ils vont déployer leur technique d'attaque ou mettre en place des méthodes, l'ordinateur, c'est le plus simple, mais ça peut passer par n'importe quel objet pour viser n'importe quel objet.
Vous avez parlé de machines zombies. Pourquoi zombies ?
Alors ça, en fait, c'est dans le cadre où des machines vont être infectées par un virus dans le but d'avoir une autre attaque derrière. C'est-à-dire que l'attaquant, dans le but de pouvoir renforcer sa puissance d'attaque, il va chercher à infecter des machines qui, en fait, vont lui obéir par la suite. En anglais, le terme qui est utilisé le plus souvent, c'est botnet. Et en fait, c'est une machine zombie, c'est une machine qui va être infectée par un attaquant dans le but de pouvoir mener des attaques plus puissantes par la suite. Et par exemple, si on a un serveur légitime qui est accessible par l'utilisateur et qu'on veut le bloquer, pour une raison, ça peut être un serveur, une fois par exemple, pour faire perdre de l'argent à une compagnie ou pour des raisons politiques, parce qu'en fait, tel serveur, on sait qu'il héberge, les attaquants peuvent trouver que le serveur héberge des données politiques d'un certain bord. Et bien avec toutes ces machines, plutôt que d'attaquer seule la machine, si là ils ont une puissance d'attaque qui est bien plus forte, et bien ça augmente leur chance de réussite et de réussir à mener leur attaque.
Alors vous avez commencé un peu à dessiner des motifs d'attaque, on a parlé de l'argent, aussi de motifs politiques. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les personnes qui s'adonnent à ces cyberattaques ?
Oui, effectivement, on a des groupes qui se dessinent. On a notamment, on va avoir ce qu'on va appeler des... dans le jargon, on va appeler ça des scripts qui disent parce que on va dire c'est des néophytes dans tout ce qui est attaquant, donc comme des enfants, et script parce que ça va être la méthode d'attaque. Et en général, ça va être des gens qui vont essayer de trouver par exemple sur internet des bouts d'attaque qui existent et qui vont se dire trop chouette, je vais essayer de la reproduire pour moi-même essayer de faire un peu de hacking ou ce genre de choses. On va avoir des attaquants qui vont être beaucoup plus débrouillards, qui vont par exemple, comme le mentionnait Hugo avant, qui vont essayer de produire des botnets avec des systèmes de plus en plus complexes, avec des attaques de plus en plus complexes, avec potentiellement plus d'attaquants.
Botnet, pardon, je ne sais pas ce que c'est botnet.
Oui, botnet, c'est la contraction de bot et network, donc network pour un réseau et bot pour un robot. Et donc ça va être un réseau de robots. Et donc en général, le meilleur exemple, ça va être plein de petites machines qui vont être codées avec des choses relativement simples et qui vont tout agir un peu comme un orchestre. Et donc ça, c'est deux premières catégories d'attaquants, mais on peut aussi avoir des attaquants qui vont être des cybercriminels, donc qui vont avoir une réelle organisation cybercriminelle, qui vont essayer de détourner de l'argent, ce genre de choses. Et on va avoir une sorte de dernier niveau d'attaquant, où là, on va vraiment avoir des attaquants qui sont très méthodiques, qui sont très compétents, voire peut-être parmi les plus compétents dans ce domaine, et qui vont, eux, essayer de vraiment avoir un gros impact, soit industriel, soit politique, et qui vont vraiment avoir des méthodologies où potentiellement ils vont pouvoir rester 6 mois dans une compagnie ou dans un système, se faire passer comme étant un élément du décor, et du jour au lendemain déclencher une attaque, ce qu'ils ne font pas les premières catégories d'attaquants.
Est-ce qu'on a une idée des proportions de ces différents types d'attaquants? Est-ce qu'il y a beaucoup de kiddies? C'est quoi c'est
les scripts qui disent.
Les scripts qui disent. Est-ce qu'il y en a, on sait qu'il y en a beaucoup et il y a très très peu d'attaquants qui sont des cybercriminels, ou est-ce que c'est l'inverse? On se rend compte de ça, de cette population?
Alors, j'ai pas de chiffres sous la main, mais c'est sûr que ce qui est en majorité, c'est ce qu'on appelle les scripts qui disent. Dans ce qu'a rajouté Mathis, ce qui fait qu'une personne est souvent catégorisée de scripts qui disent, c'est qu'en fait, elle utilise des scripts qu'elle ne comprend pas leur fonctionnement. Et ça, en fait, c'est souvent des hackers qui sont plus pointus au niveau technologique, qui eux vont mettre au point ces outils-là pour que les personnes qui ne comprennent pas puissent juste utiliser, juste en voyant un tuto par exemple sur YouTube ou peu importe le contexte. Les scripts qui disent, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que des attaquants qui ont beaucoup de compétences. Parce que pour acquérir ces compétences, ça prend du temps, ça prend de l'effort. Alors que pour être un qui dise, il y a juste aller sur Internet, avoir une envie un peu comme ça, ou juste chercher quelque chose en rapport, parce qu'on est petit et qu'on peut impressionner les copains, des choses comme ça. On va prendre un outil qui est soit en ligne, soit un truc à télécharger sur Windows. Et là, la personne, elle va lancer l'outil et elle va voir ce qu'elle peut faire ou ne pas faire.
Oui, on peut presque faire un copier-coller.
C'est exactement le but de ces personnes qui comprennent pas ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent quelque chose tel quel, elles l'exécutent et elles regardent ce qui se passe.
Et il faut une image, enfin, juste pour compléter, on peut aussi rajouter qu'il y a une sorte de marché de l'attaque. Parce qu'on peut aussi avoir des gens très compétents qui décident de ne jamais être dans l'infraction en tant que tel, mais qui, eux, vont générer des scripts, générer des attaques et les vendre à d'autres personnes qui potentiellement ne comprennent pas et du coup avoir un réel marché de l'attaque à ce niveau-là.
Oui, offre et demande. S'il y en a qui veulent essayer d'être attaquants mais qui ne savent pas, bah, l'offre va venir à eux, en fait.
Exactement.
Là, on a parlé des attaquants. Est-ce qu'il y a des structures qui sont attaqués par ces pirates de manière spécifique. Est-ce que vous, dans vos thèses respectives, vous travaillez sur des structures particulières ?
Effectivement, on va avoir. En fait, chacune des catégories d'attaquants vont avoir des objectifs plus ou moins définis. En général, le script qui dise va avoir soit un objectif en particulier ou essayer de faire quelque chose. Ça peut être essayer de récupérer les mots de passe d'un compte, tout simplement. Voilà, quelqu'un m'a fait une crasse. J'aimerais bien lui faire une crasse en retour, donc j'essaie de choper son compte. On peut avoir des gens qui essayent de s'exercer et qui attaquent sans forcément avoir trop de buts. Mais en fait, plus on va monter dans les niveaux d'attaquants, plus on va avoir des attaques qui vont être sophistiquées et donc spécialisées vers quelque chose de très spécifique. Et par exemple, on peut avoir des attaquants qui vont s'intéresser à une version très particulière d'un service très particulier, qui vont essayer d'exploiter une faille qu'ils connaissent très bien. Et donc forcément, ça les spécialise beaucoup dans les structures qu'ils vont essayer d'attaquer.
En fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans la partie de défense, la cybersécurité, c'est pas un point qui va faire que tout va être sécurisé. C'est une méthode qu'on va plutôt qualifier d'un oignon, où il y a plusieurs couches à protéger. Et si on protège l'ensemble de ces couches, alors on a un maximum de chances de réussir à parer les cyberattaques. Là, on a évoqué les différents profils d'attaquants, mais tous les attaquants, que ce soit un qui dise qui ne comprend pas ce qu'il fait ou un attaquant qui est sophistiqué, ils peuvent tous avoir des impacts sur les systèmes. La question, ça va être sur quel système. Il y a des systèmes qui sont mis à l'épreuve et qui sont testés par exemple dans ce qu'on avait appelé des audits. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut faire tester par exemple son site web ou son entreprise pour assurer qu'elle soit résiliente aux cyberattaques. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas parce que c'est pas leur cœur de métier ou parce que c'est pas ce qu'ils font de manière générale. Et dans ce cas-là, des outils automatisés peuvent par exemple voir qu'il y ait une vulnérabilité qui est connue mais qui n'a pas été réparée parce que c'est pas quelque chose auquel on a pris du temps. Et du coup, n'importe quel attaquant avec n'importe quel outil peut potentiellement avoir un impact. Mais c'est vrai qu'un qui dise, normalement, il ne doit pas pouvoir impacter une compagnie telle que par exemple Google ou Facebook. Mais tout type d'attaquant peut avoir différents types de cibles et avoir différents types d'impacts.
Alors, vous avez déjà commencé à parler de protection contre ces cyberattaques. Ce système d'oignon de plusieurs couches, est-ce qu'il y a un moyen pour n'importe quelle entreprise de réussir à se protéger à chacune de ces couches ou est-ce qu'il y a forcément des failles ? Comment on fait pour se protéger ? Si on est une infrastructure comme ça.
Effectivement, en général, on va avoir une étape qui va s'appeler l'analyse de risque. On peut partir du principe qu'un système a toujours des failles, avec toujours une façon de pouvoir l'attaquer ou compromettre ses activités. Sauf que, en fait, on sait qu'il y a des attaques qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres. Il y en a qui sont, certaines attaques pourraient avoir un impact sur du très court terme, d'autres sur du très long terme. Et en fait, par exemple, on pourrait assumer qu'on pourrait bloquer les activités d'une entreprise pendant un jour, si on est capable de le reprendre le lendemain ou le surlendemain. Et donc, on pourrait avoir des sécurités où finalement, on va devoir venir faire toute une analyse en amont, notamment pour savoir finalement quelles sont les priorités d'une entreprise. Et c'est souvent comme ça qu'est pensée finalement la cybersécurité. C'est quels sont les équipements qui doivent être protégés en premier, quels sont les équipements qui sont les plus critiques, ceux qui vont nous faire perdre le plus d'argent ou qui vont avoir socialement le plus d'impact. Et c'est en général ces questions que répondent du coup l'analyse de risque. Et à partir de cette analyse de risque, on va pouvoir déployer des solutions. Et donc là, on a des solutions qui sont plus ou moins complexes, qui vont répondre à des attaques plus ou moins rares, avec plus ou moins d'impact, et c'est souvent là-dessus qu'on va jouer.
Souvent, les systèmes ils vont traiter d'informations, et dans le RGPD, on peut trouver l'obligation de classifier ces informations.
GPD, c'est quoi GPD ?
RGPD, c'est
le Règlement Général de la Protection des Données.
Merci. Ah. Et en fait, le RGPD, c'est ce qui explique, ou du moins ce qui montre ce qui doit être fait pour protéger les données qu'il va y avoir au sein d'un système. Et au sein du RGPD, on trouve l'obligation de classifier les différentes données qu'on peut avoir. On peut avoir des données qui sont moins sensibles. Là, on parle du coup de données personnelles, donc les données des personnes. On peut avoir des données qui sont moins sensibles ou des données qui sont très sensibles, par exemple, dans tout ce qui va être médical. Et en fonction du type de données qu'on va traiter, parce que souvent les systèmes, on rentre toujours un nom, prénom, une adresse, etc. Ou même par exemple un carnet de santé. Et bien en fonction de ce qu'on a, on a besoin de protéger ces données. Et en fait, ça va définir aussi ce que Mathis a dit avant. Notre système qui va traiter ces données, parce que souvent c'est des données qui sont informatisées. Et par exemple, si on sait que ce serveur-là ou cet aspect-là, il a tendance à traiter les données, alors que celui à côté, il cherche juste à faire une petite tâche qui a moins de valeur, bah c'est là où on va prioriser. Ça, il faut vraiment le protéger, c'est ce qui est le plus important. S'il y a un attaquant qui vient, ça va avoir un impact qui va être catastrophique pour financièrement, pour la réputation, pour plein d'aspects. Et en plus, on aura fait fuiter des données. Alors qu'un petit service à côté, c'est moins prioritaire. Ça reste important. Mais c'est quand même moins prioritaire sur ce qu'il y a à protéger.
Donc, au sein d'une organisation qui souhaite, qui souhaite se protéger contre des attaques cybercriminelles, on ne va pas se protéger de la même manière. On va peut-être protéger un serveur qui a des données sur des patients, par exemple, dans un hôpital, beaucoup plus que le serveur qui organise le calendrier de ménage. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est...
Mais c'est exactement ça.
D'accord.
Après, il faut aussi voir que souvent, ces applications-là, surtout dans des structures qui sont plus petites, c'est sur le même système. Et c'est là où il faut réussir à bien... séparer ces informations-là, histoire que tout ne se retrouve pas au même endroit. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mis en valeur en théorie, mais en pratique, surtout dans les petites infrastructures, c'est pas quelque chose qui est toujours respecté.
Oui, et juste pour compléter, j'avais un exemple qui pouvait être intéressant. Par exemple, dans un hôpital, on peut avoir des attaques qui rendent le calendrier des opérations, par exemple, indisponible. Et donc là, on peut avoir des solutions qui ne sont pas complètement informatiques ou pas complètement technologiques. Parce qu'en fait, en début de semaine, on pourrait simplement imprimer le calendrier des opérations. Et rien que ça, ça permettrait justement d'assurer qu'il y ait toujours les opérations qui soient maintenues, etc. Et donc ça, on peut avoir une solution qui est tout simple, qui permet de pallier à un grand risque, hein, tout simplement des opérations du cœur qui pourraient être oubliées simplement parce qu'on n'a plus accès à notre calendrier. Et donc ça permettait par exemple d'avoir une solution simple à un problème assez complexe. Et donc des fois, ça permet d'avoir des solutions prioritaires sur ce genre de choses.
En fait, ça, c'est ce qu'on va appeler la résilience du système. Et c'est la capacité à pouvoir continuer si jamais il y a une attaque qui se dévoile. Et c'est ce qu'on fait aussi avec la partie analyse des risques, parce que notre système, on veut pas qu'il soit attaqué. Mais en pratique, on peut pas l'empêcher. Et c'est là où ce que disait Baptiste, c'est la partie, on va prioriser en fonction de certaines attaques. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui est probable, ça, c'est quelque chose qui est moins probable. Dans le cadre où il y a une attaque qui arrive, en fait, on va établir ce qu'on appelle un plan de continuité des activités, c'est-à-dire comment, lors de l'attaque et à la suite de l'attaque, on va pouvoir récupérer et faire pendant l'attaque.
On va parler justement des solutions en deuxième partie de cette émission, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la chaire Cyber-CNI ?
La chaire Cyber-CNI, c'est une chaire industrielle. Une chaire industrielle, ça va être un organe qui va servir à récupérer de l'argent, notamment pour la recherche. Et donc là, en particulier sur les recherches qui vont concerner tout ce qui est réseau d'infrastructures critiques. Donc typiquement, ça va être une centrale nucléaire, des centrales électriques, des trains, donc des objets qu'on va pouvoir utiliser tous les jours dans le monde industriel, mais qui a aussi un impact sur la vie courante. Et donc l'objectif d'une chaire, à travers du mécénat, est de faire le pont entre industriels, donc des personnes, enfin, en tout cas des entreprises qui vont pouvoir donner de l'argent et pourquoi pas échanger sur les thèmes de la recherche. Et ça va permettre de financer des thèses, des post-docs, en tout cas des gens qui vont travailler dans la recherche et qui derrière vont pouvoir partager leurs travaux, pourquoi pas en priorité aux industriels, mais l'objectif est de le faire pour le monde de la recherche au global.
Que vos thèses à vous sont financées par cette chaire ?
Oui.
C'est des chercheurs qui travaillaient grâce au financement d'industriels pour ensuite peut-être les protéger eux, puisque vous travaillez sur la cybersécurité, c'est bien ça ?
Exactement.
C'est ça.
Alors ça fonctionne sur un système de mécénat, qui permet aussi de décorréler la partie industrielle de la partie monde de la recherche publique, parce que c'est tout simplement que si ma thèse, à titre d'exemple, était directement financée par un industriel, on pourrait imaginer que cet industriel essaye d'orienter ma thèse dans la direction des objectifs de la compagnie, ce qui peut être une bonne chose, mais ce qui n'est pas forcément l'objectif de tout le monde, en tout cas l'objectif de chacun. Et donc là, ça permet, avec ce système de mécénat, d'avoir un découplage à ce niveau-là, d'être un peu plus libre, tout en gardant une proximité avec certains industriels qui nous permet aussi d'avoir des cas d'usage concrets et pourquoi pas des contacts avec le monde professionnel.
En fait, la différence avec la partie mécénat, c'est qu'on n'a pas d'obligation de production à leur égard. Au moment où ils donnent les financements, ils ne donnent pas des financements pour n'importe quoi. Ils se mettent d'accord, parce que du coup, c'est un ensemble d'industriels qui se mettent d'accord sur les sujets qui vont être évoqués, les sujets sur lesquels les étudiants, les postdocs ou les chercheurs vont travailler. Et le but, c'est qu'il y ait des sujets communs sur lesquels ils puissent se mettre d'accord, sur lesquels on va travailler, sans qu'il y ait d'obligation de résultat derrière. Mais nous, ça va nous aider dans le cadre des recherches, comme Mathis l'a dit, pour avoir des données, pour avoir des informations, pour avoir des cas un peu plus concrets que juste de la théorie, et voir ce qui est applicable pour de vrai, dans leur système par exemple.
Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on fait partie de la plus grande chaire française industrielle, ce qui nous permet d'avoir pas mal de contacts, que ce soit d'un point de vue recherche ou industriel.
On se retrouve juste après une petite pause musicale pour évoquer plus en détail vos thématiques de recherche dont on est déjà un peu en train de parler, les jumeaux numériques et les pots de miel, oui, oui.
Thank you.
son des sciences au Labo des Savoirs.
C'était What You Did de La Favie. Nous sommes de retour en plateau avec Hugo Bourreau et Mathis Durand, tous deux doctorants à IMT Atlantique, l'Institut Mines Télécom, pour parler de cybersécurité. Alors, vos sujets de thèse amènent une problématique commune, répliquer des systèmes physiques avec des enjeux autour des questionnements cyber. Alors, démarrons par vos travaux, Hugo Bourreau. Qu'est-ce qu'un jumeau numérique ?
Alors, un jumeau numérique, dans le contexte, par exemple, du industriel, donc avec une entreprise, le jumeau numérique, ça va être le but de créer un jumeau, donc une copie, d'un système qui existe. Par exemple, un contexte, ce qu'on va appeler cyberphysique, c'est par exemple une ligne de production dans une entreprise. Notre ligne de production, on veut pouvoir la contrôler, la monitorer, et du coup on va en créer un jumeau, donc c'est-à-dire une copie virtuelle, qui va nous permettre de voir ce qui se passe concrètement dans notre système physique. Ça veut dire qu'on va avoir d'une part une interface qui va nous permettre de voir, d'avoir une visualisation de ce qui se passe, et le but, ce serait de pouvoir envoyer des commandes ou recevoir des informations de ce qui se passe. Dans le cadre de la cybersécurité, on va prendre notre ligne de production et le but de cette copie, c'est de pouvoir voir ce qui se passe d'un point de vue cyber. Donc, on sait que notre ligne de production, pendant sa vie, elle va subir des attaques. Le problème, c'est que c'est souvent un fonctionnement qui est un peu abstrait, on ne sait pas trop ce qui se passe. En plus, c'est un système physique, c'est limité en termes de puissance, en termes d'espace. Et comme on ne sait pas comment notre système va réagir en cas de cyberattaque, parce qu'on ne l'a pas testé, parce que ce n'est pas son but premier, mais dans un système maintenant, il y a de plus en plus de capteurs, de plus en plus de choses qui sont connectées, on a besoin de le tester, on a besoin de comprendre comment ça va se passer, parce qu'en cas d'attaque, est-ce que mes données sont sûres ? Est-ce que comment ça va me coûter si je suis attaqué ? Qu'est-ce qui va être vulnérable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et du coup, le but de faire ce jumeau numérique, ça va être d'abstraire toutes les contraintes physiques de notre système, d'avoir une partie purement numérique, et d'avoir la possibilité de tester notre système plus en profondeur, de voir ce qui se passe, et que même si on veut aller jusqu'au bout des choses et qu'on casse notre système, comme on casse un clone numérique, notre système de production, il est toujours en place, donc on ne perd pas d'argent, on n'a pas de problème.
Et est-ce qu'il y a une différence entre un jumeau numérique et une simulation ?
Alors justement, ça va être le point premier, parce que les jumeaux numériques, c'est une notion nouvelle, ou du moins c'est récent, ça a apparu dans les années 2018, ou du moins c'est là où on a eu un essor de la technologie. Et en fait, les jumeaux numériques, ça vient pas de nulle part. Les jumeaux numériques, c'est d'autres technologies qui existaient avant, qu'on va mettre ensemble pour pousser plus loin ce qu'on a besoin. Donc d'une part, ça vient du fait que pour pouvoir récupérer les informations du système, on a besoin de capteurs. Donc en fait, ça vient aussi de la partie objet connecté ou IoT. Et en plus, effectivement, il y a une base de simulation. La différence, c'est que contrairement à la simulation, ça va rajouter deux composantes essentielles en plus. D'une part, que c'est en temps réel. Ça veut dire que notre jumeau numérique, il va recevoir en temps réel les données du système physique. Donc on va pouvoir, d'une part, pour la partie monitoring, on va voir en temps réel ce qui se passe, et c'est le but. Et la deuxième partie, c'est que ça va être dynamique. Dans le cadre, par exemple, d'un autre système, imaginons qu'on veut faire un jumeau numérique d'une imprimante 3D. Nos pièces ne sont pas imprimées de manière parfaite systématiquement. Et la partie dynamique va faire qu'on va modéliser notre système, donc notre imprimante 3D, en version numérique. Et dans la modélisation, on veut que ce soit dynamique. Ça veut dire que si jamais il y a un problème sur la pièce physique qui est imprimée, on veut que ce problème soit modélisé sur notre jumeau numérique. Et c'est ça qui, en fait, contrairement à une simulation, où souvent on va avoir un modèle qui est statique. Donc ça veut dire que normalement le comportement est censé être celui-ci, mais s'il y a un problème dans la partie réelle, il n'est pas répliqué sur la partie simulation parce que c'est décorrélé. Et là le but, c'est d'aller plus loin et de répliquer toutes ces informations-là en temps réel.
D'accord, donc c'est pas juste une copie entre guillemets qu'on stockerait quelque part pour tester des choses, c'est vraiment un alias qui se modifie en temps réel.
C'est ça, et en plus, on n'est pas vraiment sur une copie. Là, souvent quand on fait un jumeau numérique, un système physique, il a une infinité de paramètres. Par exemple, on a la température interne, l'environnement dans lequel il est, on a les paramètres physiques, on a les paramètres numériques, j'échange des données, il y a les trames de données, il y a la partie, le capteur en lui-même, il y a la donnée en elle-même, il y a comment elle est stockée. Il y a une infinité de paramètres. Et quand on va créer notre jumeau numérique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les paramètres qui nous intéressent. Par exemple, si je fais un jumeau numérique pour répliquer mon système physique et pour voir, par exemple, prenons un camion, si je veux voir en fait l'usure des pneus, je vais par exemple faire un modèle de mon camion et ce qui va m'intéresser, ça va être la température des pneus, la distance que je parcours, etc. Alors si ce qui m'intéresse, c'est parce que mon camion est connecté à ma centrale et qu'en fait je veux m'assurer que il m'envoie des données régulièrement pour me donner sa position, des choses comme ça. Bah, soit je vais modéliser la partie qui va être plus physique avec mes pneus, ma température, ou alors ce que je vais modéliser, ça va plus être la partie communication, la partie réseau du système. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi avoir plusieurs jumeaux numériques d'un même système en fonction de ce qui nous intéresse. Et du coup, c'est là où on va prendre ce qu'on appelle des features, où c'est les différents aspects du système, et on va prendre celles qui nous intéressent pour le cas d'usage qui nous intéresse.
Vous évoquez un peu le passé justement pour dire que c'était pas si récent que ça. Et dans une de ses conférences TED, Karen Wilcox, qui est professeure en sciences de l'ingénieur à l'Université du Texas, nous apprenait que cette idée avait déjà été utilisée au début des années 70, enfin en tout cas l'intention, lors de la mission Apollo 13 qui était portée par la NASA. Elle nous explique qu'un incident qui aurait pu être fatal pour les trois cosmonautes embarqués dans ce module à destination de la Lune a pu être géré justement grâce à un modèle qui tournait au sol et qui a permis en fait aux ingénieurs de tester différentes configurations de navigation et de trouver entre guillemets les meilleurs paramètres pour rentrer. Donc quand on entend ça, on se dit ouais, on peut même simuler un module spatial. Vous parliez de camions ou de lignes de production. Est-ce qu'on peut transformer n'importe quel système physique en jumeau numérique?
Alors cette histoire, je la connais aussi. Et en fait, ce qui fait qu'ils ont réussi à créer un jumeau numérique, ou du moins en fait c'est la première trace qu'on a, c'est parce qu'en fait le voyage ne se passait pas comme il fallait pour la fusée. Et en fait, ils ont pris le modèle qu'ils avaient sur Terre, et en fait, ils ont ajusté les paramètres à ce qui se passait en temps réel. Et en fait, ça, c'est une des propriétés du jumeau numérique. Le but, c'est de non seulement monitorer quelque chose, mais de pouvoir faire, en fonction des paramètres qu'on a donnés, des prédictions sur ce qui va pouvoir se passer. Et en fait, c'est là où eux, ils ont pris ce qui se passait en temps réel pour ajuster, pour voir où on en était à l'instant T. Et ils ont essayé de faire des prédictions avec ce qu'ils voulaient obtenir. Par exemple, je sais pas, que la fusée atterrisse ou qu'elle prenne telle trajectoire. Et du coup, en temps réel, là, ce n'était pas une partie automatique comme ce qu'on entendrait dans une définition maintenant. Mais en fait, manuellement, ils mettaient à jour les différents paramètres pour répliquer l'état de la fusée. Et ils faisaient des prédictions sur ce qui allait pouvoir se passer, ce qui était le plus souhaitable, tout en continuant de mettre à jour, etc.
Ben, on voit la diversité des exemples auxquels ça peut s'appliquer. Ouais. Est-ce que tous les systèmes physiques peuvent être transformés en jumeaux numériques?
Alors oui et non, dans une notion de temporalité. Parce que est-ce qu'on va pouvoir transformer tous les systèmes? Théoriquement, oui. Mais en pratique, on sait que si on veut pouvoir le modéliser, il faut qu'on puisse avoir des informations, il faut qu'on puisse avoir des capteurs. Et un système qui n'en a pas, c'est très compliqué à mettre en place. Mais après, il y a toujours la possibilité d'en installer. Je sais que c'est des travaux qu'ils font à l'Université Bretagne Sud. Il y a une chercheuse qui s'appelle Nathalie Julien qui a construit une équipe autour des jumeaux numériques où ils utilisent les différents aspects. Et il y a notamment un doctorant qui travaille sur le fait de faire un jumeau numérique d'une crèmerie. Et le but, c'est que justement, il va implémenter le système dans un endroit qui n'a absolument pas de capteur à l'heure actuelle. Il leur explique les avantages que ça peut avoir, ce qu'ils vont pouvoir en tirer, pour pouvoir optimiser, eux, c'est plus la partie industrielle, donc c'est pouvoir optimiser les coûts de production, les matières premières, etc. Et ils leur mettent en place que, bah, il faut rajouter tel capteur, et que ça va leur apporter tel gain et tel gain. Et ça, c'est un système qui est un peu plus compliqué à mettre en place qu'un système dans lequel on a déjà tous les capteurs et on va pouvoir installer notre jumeau numérique.
Alors, j'en viens à vous, Mathis Durand. Vous travaillez sur la création de Honeypot, ou pot de miel en français. Alors, j'imagine que ça n'a rien à voir avec les abeilles.
Effectivement, ça n'a absolument rien à voir avec les abeilles. Les Honeypot, ou les pots de miel, sont des systèmes qui vont servir à construire de l'intelligence sur des choses ou sur des attaques qu'on ne connaît pas encore. Donc, je vais prendre un exemple concret. Imaginez que vous êtes une entreprise, vous avez installé des services, vous avez essayé de les sécuriser, et vous vous dites, bon, a priori j'ai coché toutes les cases de ma to-do list, et j'en reviens à une situation où je me dis, mince, ça se trouve, quelqu'un de très compétent, probablement dans un autre pays, va réussir à trouver une faille de sécurité quelque part, mais pour l'instant on la connaît pas encore. Et donc pour l'instant, bah, ça se trouve, il existe, ou en tout cas on ne connaît pas encore comment s'en protéger. La question est, comment on fait pour essayer de se protéger contre ce genre d'attaque? Donc là, pour l'heure, on peut pas dire fais un peu tout et n'importe quoi et puis sur un malentendu, il y aura quelque chose qui protégera cette attaque. Non, l'objectif, en tout cas la stratégie, peut être d'avoir des systèmes qui vont jouer le rôle de vrais systèmes, donc qui vont faire semblant d'être une centrale, qui vont faire semblant d'être un vrai ordinateur avec des vrais services qui tournent dessus. Et l'objectif va être de leurrer un attaquant, le séduire pour lui faire croire que cette machine est une vraie machine, et de faire en sorte que l'attaquant déploie son attaque, et qu'il finisse par se rendre compte que finalement il n'y a rien, parce que bah, l'attaquant va finir par s'en rendre compte, mais une fois qu'il s'en sera rendu compte, ce sera trop tard,
parce que la personne qui a déployé cette fausse machine aura récolté toutes les informations et pourra, a posteriori, se dire « Ah ok, c'est comme ça que j'aurais dû protéger » et après déployer les systèmes de protection sur les vrais systèmes.
Mmh. Oui, quand vous dites récolter les informations, c'est récolter par exemple les bouts de code qui ont été utilisés pour l'attaque ou ce genre de choses ?
Effectivement, ça peut être plusieurs choses. Les bouts de code, ça peut être aussi la localisation des attaquants. On peut se rendre compte que, par exemple, certains services sont plus attaqués, par exemple, par l'Asie que par les Amériques. On peut avoir des informations sur les attaquants en eux-mêmes, leurs méthodes, leurs stratégies. Est-ce qu'ils regardent certaines parties du système qu'on n'aurait pas imaginé ? Et donc, ça peut être vraiment n'importe quel type d'information. Ce qui va donner, par la suite, une multitude de honeypots en fonction de ce que chacun veut récupérer. Donc, on peut avoir des honeypots très simples qui sont simplement là pour détecter s'il y a des activités suspectes. On peut avoir des honeypots qui vont être beaucoup plus complexes pour essayer d'avoir un vrai profilage d'un attaquant. Et on peut avoir des honeypots qui sont très spécifiques parce qu'ils vont mettre en place un service en particulier et pour pouvoir détecter s'il y a une faille sur ce service et pas un autre.
Vous avez dit faire semblant d'être une centrale. Mais comment concrètement on peut faire semblant d'être une centrale nucléaire par exemple ?
Effectivement, là c'est un point de ma recherche qui est un point assez crucial. Aujourd'hui, du point de vue de l'attaquant, en tout cas, le rôle que joue le honeypot par rapport à l'attaquant, on a deux adjectifs qui viennent en tête. Attractivité et réalisme. L'attractivité, ça va être la caractéristique d'un honeypot à séduire un attaquant en lui faisant croire qu'il a de la valeur. Et le réalisme, ça va être sa capacité à maintenir cet attaquant dans le système en lui faisant croire que c'est un vrai système. Et effectivement, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'on pourrait dire, en fait, c'est tout bête. Il suffit de faire la même chose deux fois. Sauf que ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment parce que faire la même chose deux fois, c'est très cher. Que ce soit en temps ou en argent. Mais aussi parce que, finalement, reproduire à l'identique, ça veut aussi dire peut-être qu'on reproduit les données personnelles à l'identique. Donc, potentiellement, en fait, on va rajouter des failles de sécurité. Et donc, on ne peut pas trop se permettre de faire ça. Et donc, la question est, comment faire le système minimal avec aucune information sensible, mais qui, en même temps, est quand même le vrai système ? Et ça, c'est une question de recherche.
D'accord, donc si je reprends l'exemple de la centrale, imaginons que je suis un pirate et je veux dérober, par exemple, le plan de sécurité de la centrale. Il faut créer quelque part un faux fichier avec un faux dossier plan de sécurité et c'est ça, et attirer la personne vers ce chemin-là, c'est bien ça ?
Exactement. Alors on peut avoir deux types de honeypots. On va avoir les honeypots qui vont être complètement décorrélés du système informatique. Donc là, on va plutôt parler de honeypots de recherche, parce que l'objectif, c'est qu'ils ne soient pas rattachés à une industrie. On peut aussi avoir des honeypots qui sont dans des systèmes d'information d'industrie. Donc typiquement, ça peut être une fausse machine parmi toutes les machines d'une centrale nucléaire. Et là, on va avoir plusieurs objectifs. Soit, effectivement, on fait purement de la collecte d'informations, mais on peut aussi essayer de détecter rapidement des attaques. Donc par exemple, en reprenant l'exemple du faux plan de la centrale nucléaire, on pourrait mettre une machine qui est un peu plus mise en valeur que les autres, avec pourquoi pas des noms qui sont un peu plus évocateurs, du type admin machine, ce genre de choses, pour essayer de faire croire que c'est une machine qui est vraiment importante. Et l'objectif, c'est que l'attaquant, il arrive d'abord sur cette machine. On détecte qu'il y a un attaquant, parce qu'en fait, il n'y a que les attaquants qui vont arriver sur ces machines. Et on lui fait croire que dessus, il y a le plan de la centrale, alors que c'est un faux. Ou alors, ça se trouve, on ne peut même pas lui donner le faux plan, parce que ça se trouve, le fait qu'il soit sur cette machine fait qu'il est déjà détecté et qu'on va essayer de mettre des dispositions de sécurité.
Ça me fait venir cette question qui, je pense, correspond à vos deux travaux. C'est, est-ce qu'il y a justement des risques pour les systèmes que vous étudiez à faire ces répliques ? Vous commenciez un peu à le dire là sur la centrale, justement, peut-être qu'il y a des endroits où on ne veut pas que les attaquants puissent aller.
Que ce soit pour Mathis ou moi, nos sujets se recroisent sur la partie où on va devoir recréer un système. Après, la question de qu'est-ce qu'on choisit pour modéliser notre système pour que ce soit intéressant pour l'attaquant, que ça puisse le leurrer dedans, ou en fonction de ce qu'on veut en faire par la suite, moi ça peut être de la prédiction ou d'autres choses qui nous intéressent. Comme on ajoute de nouvelles technologies, en fait c'est des nouveaux endroits où il peut y avoir des vulnérabilités, et en fait au contraire, on pense améliorer notre système, mais en fait on en crée quelque chose qui est encore plus vulnérable ou une grande surface d'attaque. Dans le cadre du jumeau numérique, où Simatis par exemple met des données qui sont potentiellement intéressantes dans son honeypot, mais j'imagine que ce ne sera pas le cas. Si nous, dans le jumeau numérique, j'ai toutes mes données, par exemple, dans un système de santé, et que j'en crée un jumeau, et c'est-à-dire que toutes les données sont envoyées dans mon jumeau, mon jumeau, il est aussi sensible que mon système lui-même, et c'est-à-dire que les deux doivent être protégés aussi bien l'un que l'autre, et ça nous fait encore une plus grosse masse à protéger, en fait, dans notre système.
Et pour rebondir là-dessus, par exemple, sur les honeypots, on pourrait imaginer qu'on met un certain niveau de sécurité, mais on peut aussi imaginer qu'on rajoute des vulnérabilités sur ce honeypot pour le rendre plus intéressant du point de vue des attaquants. Mais en fait, on peut très bien se retrouver contre un attaquant qui est beaucoup plus compétent,
qui va réussir à comprendre comment déjouer ces mécanismes de sécurité. Et là, s'il arrive à compromettre totalement le honeypot, bah, éventuellement, il se retrouve avec une machine à lui, en tout cas qu'il possède et qu'il contrôle, dans le système d'information d'une grande entreprise. Et donc, soit il va rejoindre ce qu'on appelait tout à l'heure un botnet ou des machines zombies, donc dans ce cas-là, pour propager une attaque encore plus efficace, plus performante. Mais ça peut être aussi une jolie porte d'entrée pour atteindre des vraies ressources du système.
Parce que, juste pour dans le cas du honeypot, l'objectif de Matisse, c'est que l'attaquant il puisse compromettre le honeypot, mais dans une partie qu'on maîtrise. Et c'est ça que tu veux éviter. Enfin, tu veux éviter que tu rajoutes des vulnérabilités pour ça, mais tu veux pas que l'attaquant il prenne complètement le contrôle de notre système de contrôle de ce qui se passe, où là, on n'a plus le contrôle de la machine et c'est perdu.
Exactement.
Oui, il y a une question d'étanchéité, en fait.
Exactement. On veut pas que... En fait, on veut pouvoir quand même maîtriser l'attaque de l'attaquant.
La fin de notre cyberdiscussion, c'est juste après cette seconde pause musicale.
Et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était What They Call Us de Fever Ray. Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs avec nos deux experts du jour, Mathis Durand et Hugo Bourreau. Vous êtes doctorant au sein de la chaire Cyber-CNI et de la chaire de recherche en cyberdéfense de l'UQAC. Alors on va un petit peu continuer la discussion qu'on a pu avoir avant la pause musicale. Donc concrètement, moi ce que j'ai compris de vos travaux, c'est que vous essayez de reproduire la réalité. Donc vous avez commencé un peu à nous en parler, Hugo, tout à l'heure, sur le choix des paramètres qu'il fallait faire. Mais concrètement, comment est-ce que vous faites pour avoir le dispositif le plus adapté à la problématique que vous étudiez ?
C'est une très bonne question, parce que c'est vraiment un champ de recherche à part. Tout simplement parce que, finalement, choisir les paramètres ou les propriétés sur lesquelles on va vouloir jouer, en tout cas reproduire ou représenter, c'est une vraie question, puisque ça va demander du temps. Et surtout, ça peut complètement faire mouche chez l'attaquant ou pas. On peut très bien passer beaucoup de temps à reproduire un système d'information, par exemple représenter des dossiers, des documents qui peuvent être administratifs ou faire semblant d'être administratifs. Mais si derrière l'attaquant, lui, regarde simplement le mouvement de la souris, voir qu'il n'y a pas de mouvement de la souris de la journée, et du coup qu'a priori il n'y a personne derrière l'ordinateur, finalement on a passé toute notre journée, dans le meilleur des cas, semaine peut-être, à faire finalement des fichiers qui servent à rien. Et donc la question est toujours un compromis entre le temps qu'on va y passer et à quel point on va réussir à attraper, ou en tout cas à subir des attaquants. J'imagine que pour les jumeaux numériques, on retrouve à peu près ces mêmes paramètres, savoir est-ce que ça va vraiment avoir un impact.
Ouais.
Et du coup, la question est finalement comment on fait pour correctement choisir. Et souvent, ça va être fait de manière plus ou moins expérimentale. On va voir qu'il y a des choses qui vont avoir plus d'impact que d'autres, où on va essayer de comprendre la méthodologie de l'attaquant. Parce qu'en général, on a assez peu d'attaquants qui viennent nous dire comment ils s'y prennent. Et,
ils sont timides.
Ah, ils sont un peu timides, je pense.
Mais ça passe surtout, je pense, par la capacité d'analyse. Souvent, quand on parle de mettre ça en place, on pense vraiment à la conception du système, comment on va faire, est-ce que mes paramètres sont bons. Mais avant, il y a une grosse partie d'analyse de déjà comprendre ce qu'on veut faire. Et dans le cadre de l'attaquant, j'imagine qu'avant, vous définissez un profil pour un attaquant en particulier, et c'est ce que vous allez modéliser dans le système pour se dire, bah, on va chercher à coincer tel type d'attaquant. Par exemple, est-ce qu'un script qui dit va être intéressant ou pas, ou alors est-ce qu'on s'intéresse plutôt à un attaquant qui a beaucoup de compétences?
Effectivement, c'est quelque chose vers lequel on va, tout simplement parce que on s'est rendu compte que faire des honeypots pour essayer d'attraper un peu tout et n'importe quoi, ça marchait bien au début, ça marche de moins en moins bien parce que bah, les honeypots sont aussi connus des attaquants, peut-être qu'ils en déploient eux-mêmes, donc finalement il faut aussi qu'on arrive à être efficace. Et donc effectivement, dans toute la démarche de construction, on va retrouver cette question de finalement on veut attraper qui, ils veulent quoi, quelles sont leurs stratégies, et donc ça c'est des questions à part entière.
Mais concrètement, vous, durant votre thèse, vous attendez à ce que vos dispositifs soient attaqués par une personne de l'extérieur?
Moi, globalement, j'ai de grandes chances d'être au moins touché par des scripts qui disent, ou à défaut, des ordinateurs qui sont automatisés pour essayer de scanner l'Internet. En fait, à chaque fois qu'on va déployer un service sur Internet, on va avoir automatiquement plein de scans qui vont être faits par des machines. L'objectif, ça va être de cartographier Internet, mais des fois, c'est aussi de voir s'il y a des failles de sécurité qui existent, qui sont déployées. Donc en général, ça c'est la partie la moins intéressante, puisque c'est des choses qui sont très connues, voire très bien maîtrisées. Et donc nous, on n'a pas forcément besoin de collecter encore plus d'informations là-dessus. Mais c'est un peu la première étape. C'est-à-dire que dès qu'on arrive un peu dans ces systèmes, enfin en tout cas, on se fait voir par ces systèmes, on peut se dire que derrière, des attaquants plus expérimentés vont essayer quelque chose. Et à travers ma thèse, il y a de grandes chances d'attraper des gens qui vont mettre des attaques un peu plus élaboré, mais j'ai assez peu d'espoir d'avoir un réel attaquant étatique qui va essayer de jouer à de la politique sur mes systèmes.
C'est un appel du coup.
C'est un appel d'offre, mais allez-y doucement parce que c'est pas tout à fait prêt.
J'ai l'impression que c'est la collection des meilleurs profils de cartes Pokémon. Ouais. Est-ce qu'on arrive à avoir un Pokémon légende ou pas ?
Pour la partie jumeau numérique, moi je me plaçais pas forcément sur l'aspect attaque. Je me plaçais vraiment sur l'aspect défense. Et du coup, j'imaginais pas avoir un acteur externe qui va venir tester mon système, mais plutôt tester un système actuel pour voir comment on peut l'améliorer sans nécessairement qu'il y ait un attaquant qui vienne, dans un cas entre guillemets réel, attaquer mon système.
Donc là, on est en train de réfléchir à créer votre jumeau numérique parfait ou votre pot de miel le plus alléchant possible. Est-ce que vous partez d'une page blanche ou est-ce qu'il y a un peu des briques de base que vous pouvez assembler ?
Alors effectivement, on part pas non plus d'une page blanche, surtout pour les honeypots qui sont qui eux aussi ont eu leur première trace en 1970. Donc effectivement, ils sont un peu plus vieux que moi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une grande évolution, parce que simplement les attaques ont aussi évolué, nos connaissances sur les attaques ont aussi évolué, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir vraiment une évolution complète avec vraiment des honeypots qui se dessinent un peu dans toutes les directions avec des objectifs différents. Et aujourd'hui, on a par exemple des papiers qui vont critiquer complètement les honeypots en disant finalement, vous rajoutez plus de failles de sécurité que vous arrivez à récupérer des informations. On va avoir des travaux qui vont comme ça être très critiques, ce qui est évidemment intéressant et qui va nous permettre aussi de construire une solution qui va trouver un compromis qui serait intéressant. Et notamment le compromis entre quels sont les risques que je prends, quel est le temps que j'y passe, quelle information ou quel bénéfice j'en tire. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent pour les honeypots en milieu industriel. Il y en a encore plus pour les honeypots dans les milieux plus classiques. Mais du coup, là, je me retrouve sur un terrain où je vais pouvoir tester différentes solutions, les comparer et pourquoi pas proposer une solution qui va agglomérer plusieurs méthodes, plusieurs résultats pour avoir un compromis qui serait intéressant.
Et pour vous, Hugo ?
Dans le cadre des jumeaux numériques, on n'est pas du tout sur... En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une technologie nouvelle, mais qui se base sur beaucoup de technologies déjà existantes. Donc l'hégémonie numérique dépend d'une part de l'évolution des objets connectés, parce que c'est souvent ce qu'on va utiliser pour récupérer de la donnée. Et ça se base aussi sur des méthodes de création de modèles et de simulation. Et là, il y a des outils qui existent. Et même les outils pour faire du digital twin directement, maintenant, ça commence à exister. Depuis 2020, il y a Microsoft Azure Digital Twin qui existe, donc un outil proposé par Microsoft. Et là, c'est des outils pour mettre en place dans les entreprises les digital twins. Donc non, ce sont pas des outils qui sont... Enfin, c'est pas une technologie qui sort de nulle part, qui est nouvelle, et qui d'un coup, hop, ça apparaît. Donc on réutilise des briques qui existent déjà. Mais en tout cas, pour la cybersécurité, c'est un nouveau cas d'usage. Les digital twins sont... Enfin, les jumeaux numériques, ou en anglais digital twins, sont étudiés depuis 2018. Mais ceux pour la cybersécurité, c'est encore quelque chose qui est en marge de ce qu'on fait à l'heure actuelle.
Alors avant de vous poser nos dernières questions, on écoute un extrait de la chronique de Nicolas Harpagian dans l'émission Nouveau Monde de France Info en novembre 2024 dernier, où il est question de parcs-maîtres malfaisants.
Toujours à la recherche de performance et de rentabilité, les pirates multiplient les incursions dans le monde physique pour conduire leurs activités cybercriminelles. Ainsi, en octobre dernier, des stickers, des autocollants aux allures de QR code ont fleuri sur au moins 161 horodateurs à Nice. Les automobilistes désireux de régler leur stationnement étaient invités à se connecter directement avec leur smartphone sur un faux service Pay by Phone, en principe en service dans la ville. En un clic, vous atterrissiez sur un site bidon qui, évidemment, ressemblait très pour trait au site officiel.
Donc on imagine que l'intérêt de l'escroc, c'est de récupérer l'argent des parcs-maîtres.
Alors oui, mais pas seulement, puisque la victime a fourni également ses références de cartes bancaires qui peuvent être utilisées et revendues par la suite. Ici, le pirate mise sur la confiance du consommateur qui, dans le contexte de la situation, fournit sans crainte ses informations. D'autant que s'il ne pointe pas assidûment ses comptes, il ne prendra conscience du vol qu'en recevant plus tard l'amende pour stationnement impayé. Face à des dispositifs numériques de sécurité de plus en plus élaborés, les fraudeurs cherchent donc à s'immiscer dans la vie quotidienne afin d'abuser de la confiance des consommateurs, ce qui exige pour eux de conduire des activités en ligne, mais également de s'organiser sur le terrain en déployant par exemple des autocollants sur des bornes de stationnement ou sur des affichettes d'information dans les transports en commun.
Voilà pour cet extrait, vous l'avez compris, on arrive dans la dernière partie de l'émission sur un côté un peu plus boîte à outils, info pratique. Comment on fait quand, en flashant un QR code, on risque de se faire voler nos données ?
Pour moi, ça fait suite à une autre type d'attaque qui était connue avant, où il y avait une attaque qui était très répandue, où ça consistait sur là où on paye dans les magasins, la borne où on met notre carte bleue et qu'on paye. Il y a des gens qui s'amusaient à mettre des faux claviers par-dessus, qui a fait scandale il y a maintenant, c'est assez vieux, ça a peut-être 5-10 ans. Quand on tapait un code de carte bleue, c'était enregistré, en fait, c'était une couche qui venait peut-être par-dessus. On retrouvait ça aussi sur les distributeurs automatiques de billets, où en fait, ils venaient mettre le code par-dessus, on rentrait notre code, notre carte bleue, et ça pouvait récupérer, du coup, soit un champ magnétique, soit directement, en fait, on avait le code. Donc, soit fallait qu'ils réussissent à cloner la carte, c'était un peu dur. Mais en tout cas, s'ils arrivaient à récupérer la carte bleue, donc la voler plus tard en second temps, eh ben, ils pouvaient directement avoir le code, les informations, etc., etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur un cas, plus récent de l'attaque.
Effectivement, en fait, ça fait écho à beaucoup d'attaques différentes. C'est aussi pour ça que finalement les attaques sont assez complexes puisque finalement elles sont représentées sous plusieurs formes. On peut aussi penser au phishing. Le but du phishing, c'est d'envoyer un mail dans lequel il y a un lien qui est vérolé. Et effectivement, là, l'objectif, c'est de pousser l'utilisateur à cliquer dessus. Donc souvent, on va utiliser des notions d'argent. Donc là, par exemple, pour le parc-maître, on va dire la conséquence est assez immédiate. C'est finalement, si on ne paye pas le parc-maître, on va finir par avoir une amende. Et donc l'objectif est de faire croire à l'utilisateur qu'il y a une situation d'urgence ou il y a une situation qui est importante. Et l'objectif est de le pousser dans ses retranchements pour qu'il réfléchisse le moins possible pour après, des fois, déployer des attaques qui sont vraiment absurdes, mais qui, dans une situation d'urgence, est complètement passée sous silence. On peut aussi avoir des choses, par exemple, Hugo et moi travaillons à Rennes. À Rennes, donc à Nantes aussi, on a des soucis de logement, avec notamment... un circuit qui est assez bouché. Et on peut avoir des annonces Le Bon Coin qui apparaissent, avec des appartements très alléchants, qui vont vous demander dans la précipitation des dossiers, notamment pour organiser des visites. Alors, comprenez, le propriétaire, il s'est fait mal la semaine dernière, donc des fois, il a un peu du mal à passer. Mais en tout cas, très vite, il faut envoyer un dossier. Et c'est la meilleure méthode pour eux de récupérer vos documents comme votre carte d'identité et après d'essayer de faire des actions de faussaire, et notamment pour essayer de usurper votre identité.
Toujours faire attention quand on envoie son identité, surtout si c'est joint avec un RIB ou peu importe. En fait, faut se dire qu'avec toutes ces informations-là, même si on le fait pour réserver un appartement, encore une fois, il faut vérifier les pièces qu'on doit envoyer. Parce que si on envoie toutes nos informations, y compris bancaires, en fait, la personne, elle a tout ce qu'il faut pour se faire passer pour nous sur Internet.
Alors j'ai un autre exemple, parce qu'il se trouve que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a aussi par exemple sur l'application Blablacar, pour partager des voitures, un ami m'a raconté que parfois il y avait des fausses annonces Blablacar. On répondait à l'annonce pour payer le transport et ensuite on avait un message en disant « mince, le site a bugué, attends, je te renvoie un lien » et en cliquant on arrive sur autre chose mais qui est très bien imité et ça ressemble à Blablacar. Comment, alors nous, consommateurs, quand on n'est pas expert de la cybersécurité, comment on fait pour détecter ça suffisamment tôt et ne pas se faire avoir par l'urgence et ne pas envoyer des mauvaises choses?
Alors déjà, que ce soit le cas pour Blablacar, Le Bon Coin ou peu importe le site, quand on dit cliquer sur un lien, il faut toujours être suspicieux de ce que ça peut être. Surtout quand c'est une personne qu'on ne connaît pas. L'autre point, c'est si on arrive sur le site web, par exemple si c'est un site web connu, plutôt que de cliquer sur le lien d'une personne auquel on a un doute, on le cherche sur internet et on va dessus. L'autre point, c'est quand on arrive sur la page web, parce que par exemple on clique sur un mail, ça on le fait tous parce que c'est plus simple que de chercher sur internet. Mais une vérification qui prend quelques secondes, c'est de s'assurer d'une part en haut qu'il y a le petit cadenas à côté, et dans un deuxième temps...
À côté de l'URL, c'est ça?
Exactement. Et deuxième temps, en fait, c'est de regarder l'URL. Il faut savoir qu'une URL, on ne peut pas reprendre exactement la même. Si c'est un vrai site web, un pirate malveillant, enfin un pirate, ne pourra pas reprendre la même URL. Ça veut dire qu'il va forcément, souvent pour imiter le site, soit il ne fait absolument pas d'effort et l'URL ne ressemble à rien, et dans ce cas-là, il faut se douter, ça met un peu la puce à l'oreille, quelque chose qui est bizarre. Ou des fois, ils vont inverser une lettre, par exemple, à tout hasard, avec Mondial Relais, remplacer le L par un I. C'est quelque chose qui se voit très peu, mais qui... En fait, le cadenas veut juste dire que la connexion entre nous et le site web, elle est sécurisée. Mais le site web, ça ne nous indique pas qu'on est sur le bon site web. Et c'est là qu'il faut faire attention, du coup, à l'URL qu'on peut voir en haut.
Et j'ajouterais, on a des attaquants qui sont vraiment vicieux. Parce que là, Hugo a donné un exemple qui a encore été visible. Il y a encore pas si longtemps que ça, on a eu des cas où le A était remplacé par un A cyrillique, donc un A russe. Où là, finalement, la différence est quasi indétectable. Mais pour le coup, vu que c'est pas la même lettre, pas le même caractère, on est sur deux sites complètement différents.
Donc faire attention à l'URL, ne pas agir dans l'urgence, ne pas scanner n'importe quoi en QR code dans la rue. Est-ce qu'il y a d'autres techniques ou façons de faire qu'il faut peut-être intégrer comme des réflexes que vous pouvez proposer à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent?
En général, ce qui est intéressant, c'est d'en parler. Alors si c'est un expert en sécurité, c'est encore mieux, mais on n'a pas forcément tous un expert en cybersécurité ou quelqu'un qui est initié à la cybersécurité. En tout cas, le fait d'en parler permet aussi d'avoir des fois les bonnes questions. Tout simplement, finalement, est-ce que cette situation est vraiment raisonnable? Est-ce qu'on peut penser qu'une telle situation peut arriver à quelqu'un, peu importe? On peut aussi avoir des réflexes du type essayer de valider le message qu'on vient de recevoir. Par exemple, vous recevez un mail douteux de votre N+1, vous n'êtes pas sûr que finalement c'est exactement ce qu'il avait demandé. Vous pouvez essayer de passer par la messagerie professionnelle. On peut imaginer que si un attaquant a réussi à usurper le mot de passe de son email, de sa boîte mail, on peut imaginer qu'il y a assez peu de chances qu'il ait aussi récupéré le mot de passe de sa messagerie. Et donc, on peut imaginer que finalement, il n'est pas forcément sur tous les canaux. Et donc, des fois, ça permet de confirmer typiquement un mail de votre RH qui vous dit n'hésitez pas à cliquer sur votre fiche de paye, il y a eu une augmentation, donc on essaye de vous allécher. Et pourquoi pas envoyer un petit message à votre RH via Teams ou n'importe quel outil pour dire « Hey, j'ai reçu un message de votre part, est-ce que c'est bien vous ?» Et donc là, en général, ça permet déjà d'enlever beaucoup de faux mails ou de faux messages.
Un autre point qui est important, souvent, en fait, le canot sur lequel les attaquants jouent, Mathis, au début de l'émission, a cité le social engineering, qui en fait consiste à exploiter la faille humaine, et notamment via les émotions. Par exemple, souvent, quand on va vous appeler au téléphone pour vous demander quelque chose, on va vous dire que c'est urgent, qu'il faut l'information maintenant, rapidement, justement pour qu'on ne fasse pas ces étapes de vérification. Et c'est là où il faut prendre le temps et se dire que normalement, un conseiller en banque ou n'importe quelle personne qui vous appelle et qui est légitime, elle ne va pas faire en sorte de vous presser ou dire que c'est vraiment l'urgence, maintenant, tout de suite, qu'il faut y aller. Mais normalement, il faut prendre le temps quand même de voir ce qui se passe, un peu de réfléchir. Et ça rejoint sur le fait d'en parler à quelqu'un. Mais même s'il joue sur le canot de l'urgence, prendre 5 minutes et essayer de prendre un peu de recul sur la situation, en parler à quelqu'un, essayer de repenser un peu à ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup mieux de prendre 5 minutes maintenant, même si on est dans une pseudo-urgence, que plus tard devoir gérer les conséquences de tout ça. Par exemple, avec une carte bancaire qui est bloquée, il faut aller en faire une, etc. Parce qu'en fait, on a fait une erreur avant, etc., etc.
Et typiquement, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un mail de l'Entaille qui me donnait une amende de stationnement. Alors ça tombe bien, j'ai pas de voiture, donc au moins j'étais pas trop inquiété. Mais par exemple, l'expéditeur avait une adresse mail qui était brésilienne.
Donc ça se voyait avec le point BR qui était tout à la fin. Mais aussi, typiquement, j'aurais pu faire une petite recherche internet pour voir mail en taille, et probablement que dans les premières recherches, dans, en tout cas dans les premiers résultats de la recherche, on aurait vu des arnaques en se faisant passer pour l'entaille, qui permet aussi de se rassurer et des fois de se poser les bonnes questions au bon moment.
Et je finirai juste par ajouter un dernier point. Le fait de ne pas cliquer sur les URL des personnes auxquelles on n'est pas sûr, c'est vraiment une bonne pratique à adopter, parce que souvent la question se pose, c'est « mais si je clique juste sur un lien, c'est pas si grave ». Bah, il suffit de vous cliquer sur un lien sur votre navigateur internet pour donner potentiellement des informations à un attaquant. Et c'est encore plus vicieux sur téléphone, parce que sur téléphone, c'est encore plus caché. Quand je parlais du cadenas et de l'URL à vérifier, sur le téléphone, c'est encore plus dur, parce qu'il faut cliquer sur, enfin, faut avoir l'habitude, et c'est un réflexe qu'on n'a pas toujours. Alors que sur un ordinateur, c'est plus visible. Mais en tout cas, ne pas cliquer sur les liens inconnus, c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place.
Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Merci encore à Hugo Bourreau et Mathis Durand, doctorants à l'Institut Mines-Télécom au sein de la chaire Cyber-CNI et de la chaire de recherche en cyberdéfense de l'UQAC. Toutes les ressources sont à retrouver en description du podcast et sur notre site internet. Une émission préparée, animée et réalisée par Jérémy Frexas et Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur nos applications de podcast. Retrouvez-nous sur lelabodessavoir.fr, sur nos réseaux sociaux, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Le quart d'heure en juin,
chaque samedi,
14h sur Radio.